Sa nouvelle position va lui permettre de se relancer dans un projet gigantesque qui a certainement participé à le faire venir à Milan. Celui du cheval géant imaginé par Sforza pour sa ville. Il va lui falloir près de 10 ans pour toucher son but du doigt. Imaginer et réaliser un équidé en bronze qui surpasse par sa beauté ceux de l'Antiquité. Pas une mince affaire. Pourtant, Léonard va réussir en proposant à son mécène un cheval de plus de 7 mètres de haut. Hélas, il ne verra jamais le jour. La grande histoire se remet en marche et dans le cadre des guerres d'Italie, l'armée française débarque à Milan et renverse le duc Sforza. Pour de Vinci, cela marque la fin de l'aventure équestre et plus encore de son séjour en Lombardie. Devenu une véritable star à la recherche de nouveaux protecteurs, il se place sous la coupe des Borgia et retourne à Florence. Il est pourtant loin de se douter de la suite des événements. Sa destinée porte un nom qui va marquer l'histoire. La Joconde. Roi Florence. Dans son atelier, Léonard de Vinci est tourmenté. La guerre, qu'il a vécue très mal, l'a particulièrement affecté. Dans la cité de ses débuts, il s'est remis à peindre. Une de ses œuvres, la Sainte Anne, l'occupe même depuis des années. Mais aujourd'hui, voilà que débute une nouvelle aventure. Devant lui, qui pose un petit sourire au coin des lèvres, une bourgeoise florentine. Cette femme envoûtante s'appelle Mona Lisa del Giocondo. Son mari a commandé au maître son portrait afin d'immortaliser l'admiration qu'il lui porte. Il a préféré peindre cette femme plutôt que la duchesse de Mantoue, qui lui court après depuis des années. Un choix bien étonnant et mystérieux, alors que son modèle est issu d'une bourgeoisie moyenne de la cité toscane. L'artiste, concentré, ne cesse de se dire qu'il a fait le bon choix. Sa liberté est totale. Il peut s'exprimer comme il le souhaite. Car bien plus encore qu'un portrait, la Joconde est entourée par un monde aux détails infimes. Plus encore, à chaque coup de pinceau, De Vinci fait basculer son modèle dans l'immortalité. Tout est vivant sur cette toile. On dirait qu'elle respire. L'artiste atteint là sans mesure un niveau de créativité et de technicité inégalé. De Vinci prend toute sa mesure. Il marque là, une nouvelle fois, la grande histoire de son empreinte. Alors que Mona Lisa pose dans l'atelier florentin de Leonardo, Josquin des Prés, lui, est de retour en France. Comme De Vinci, il a été victime de la chute de ses anciens mécènes avec l'invasion des troupes françaises en Lombardie. Le compositeur, très célèbre dans la botte, a dû se résoudre à quitter ce pays d'adoption qu'il a tant fait vibrer. En son honneur, avant de partir, il a écrit son œuvre profane la plus célèbre, La Frottole, El Grillo. Lui aussi est bien implanté dans la cour des grands. Le musicien va continuer de marquer son temps. Il aura la chance, au contraire de Léonard de Vinci, de retourner en Italie. Ébranlé par les épisodes guerriers qu'il a pu traverser comme ses contemporains, l'artiste se plonge au tout début du XVIe siècle dans le travail pour oublier. Cela passera par sa lubie de trouver le moyen de faire voler les hommes, et plus encore, par la réalisation de la Sainte Anne et de la Joconde. Laurent de Médicis, qui le finance depuis très longtemps, finit par mourir. Léonard va devoir se trouver un nouvel allié au portefeuille garni. C'est alors qu'un incroyable signe du destin le percute de nouveau. François Ier, roi de France, l'invite officiellement à résidence. Le frais vainqueur de Marignan veut faire entrer son royaume au cœur de la Renaissance. Quoi de mieux pour cela que de faire venir son plus célèbre symbole? Au Clos Lucé, à côté d'Amboise, le savant trouve une demeure qui lui sied parfaitement. Sa pension colossale de 1000 écus d'or lui permet de vivre sans se soucier du lendemain. Quelle incroyable fin de vie pour cet homme né d'une relation illégitime. Le 2 mai 1519, après une vie comme aucun autre homme avant lui n'a certainement vécu, l'artiste s'éteint en France, loin de son Italie natale. Comprendre de Vinci doit se faire au travers de l'héritage colossal qu'il a transmis. Via ses peintures et ses dessins, via ses 10 000 pages de notes et ses croquis, via ses inventions et ses projets. Reste qu'une question revient très régulièrement au sujet de Léonard de Vinci et de son œuvre. Était-il vraiment un génie ? Touche à tout, capable d'être productif dans bien des disciplines artistiques ou techniques, l'homme n'était-il qu'un bon second ? Après tout, la Renaissance regorge de profils géniaux, de Michel-Ange à Donatello. Il est aussi là, le mystère de Vinci. Il nous est bien difficile d'évaluer avec précision l'étendue de son talent. Peintre, architecte, ingénieur, scientifique. Ses nombreuses casquettes lui ont permis d'acquérir une réputation inégalée, hors norme dans l'histoire de l'humanité. Son goût des machines et son imagination débordante lui permettent de tracer les croquis de systèmes on ne peut plus futuristes pour l'époque. Mitrailleuse, vélo, scaphandre, parachute, calculatrice, tout y passe. Léonard est même allé jusqu'à élaborer des projets plus innovants encore, comme celui du char d'assaut ou de la voiture. Dingue à première vue, symbole de la période de la Renaissance qui redécouvre les génies antiques. De Vinci est devenu à bien des égards immortel. Mais tout cela est-il bien réel ? De génération en génération, le mythe autour de Léonard de Vinci s'est renforcé parmi les scientifiques et les ingénieurs. Le Codex Atlanticus de Venturi, écrit au XVIIIe siècle, est un exemple frappant de cet héritage. Mais les mythes, c'est bien connu, sont souvent bien loin de la réalité. Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des inventions dessinées et imaginées par le savant n'ont pas pu être fabriquées de son vivant, la plupart du temps pour des raisons techniques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que certaines de ses inventions sont en réalité celles d'autres savants de l'époque et qu'il les a reprises à son compte. Mais tout de même, comment ne pas noter toutes les capacités d'ingénierie militaire du savant, notamment lorsqu'il s'agit d'inventer les bateaux à aubes ou les ponts mobiles, démontables et en kit, utilisables par des armées en mouvement, sans que leur usage ne soit trop contraignant. Ce questionnement autour de l'impact réel ou supposé de Léonard sur son époque, l'art sous toutes ses formes et les sciences, repose en réalité sur un constat implacable. La destinée et l'héritage du génie sont deux faces d'une même pièce. D'un côté, la lumineuse histoire romantique d'un homme incompris, coupé de ses contemporains, la tête dans les étoiles et dans les calculs, dont les plus grands esprits du temps sont les admirateurs fervents. C'est celle du mythe, qui en Europe, et plus particulièrement en Italie et en France, est particulièrement vif et entretenu. Il est supposé que De Vinci était seul parce qu'il a vu le futur avant tous les autres. L'autre face de la pièce est plus mesurée. Elle montre un inventeur extraordinaire qui se base sur les inventions de ses prédécesseurs pour les sublimer, mais qui peut aussi parfois se tromper, abandonner, recommencer. Un Léonard plus humain, en somme, qui n'en est pas moins génial et inspirant. Léonard de Vinci est un mystère. Malgré nos connaissances à son sujet, malgré ses nombreuses transmissions picturales, sculpturales, en ingénierie et en mécanique, quelque chose continuera toujours à nous échapper. Peut-être parce qu'il est dingue d'imaginer qu'un seul esprit a été capable de faire autant de choses, dans autant de domaines différents. Il a été capable de s'inventer lui-même, dès son plus jeune âge, en se persuadant d'être le détenteur d'une destinée extraordinaire. Comment ne pas affirmer qu'il a eu raison ? Mona Lisa, la Seine, Salvator Mundi et tous les autres continuent jour après jour d'émerveiller les cœurs et les esprits.